Jacques Lacan. Séminaire Les Non-Dupes, R. Le 14 mai 1974.
Les Non-Dupes, R. Ça ne veut pas dire que les dupes n'errent pas. Si nous partons de ce qui se propose comme une affirmation, entendez-vous comme ça, si je suis en face du machin, que la personne qui m'a dit qu'on n'entend rien réponde, est-ce qu'elle entend? Disons que c'est introduire par cette affirmation que les non-dupes pourraient bien, sans plus, ne pas errer. Mais déjà, ceci nous introduit à la question que pose la double négation. Être n'être pas non-dupe. Est-ce que ça se ramène à être dupe? Ceci suppose et ne suppose rien de moins qu'il y a un univers. Qu'on puisse avancer que l'univers tout énoncé divise, qu'on puisse dire l'homme et que si on le dit, je veux dire de le dire, tout le reste devient non-homme. Un logicien. puisque j'avance que la logique, c'est la science du réel. Un logicien a fait un pas. Bien longtemps après Aristote, qu'il ait fallu attendre Boulle pour qu'en 1853 sorte une investigation of laws of salt, une investigation sur les lois de la pensée qui, sur Aristote, a déjà cet avantage d'être un pas, une tentative de coller à ce qu'il prétend observer fonder en somme a posteriori comme constituant les lois de la pensée. Que fait-il? Il écrit très précisément ce que je viens de vous dire. C'est à savoir qu'à partir de quoi que ce soit qui se dise, qui s'énonce, et les choses pour lui sont telles qu'il ne peut faire que d'avancer l'idée de l'univers. Il la symbolise par un chiffre qui y convient, c'est le chiffre 1. Il écrira donc de tout ce qui se propose comme notable. Notable dans cet univers. Il écrira donc X. Il le laisse vide, cet X, puisque c'est là le principe de l'usage de cette lettre, c'est quoi que ce soit qui soit notable dans l'univers. Si vous trimballez ça, ça m'aidera à aller au tableau. Oui. X écrit-il. Multiplier moins x. Ceci ne peut que s'égaler à zéro. Ceci ne peut pour peu qu'on donne ce sens à la multiplication de noter l'intersection. C'est de là qu'il part. C'est en temps que X est notable dans l'univers que quelque chose se sustente seulement du nom aux hommes s'opposant les non-hommes comme tels. Tout ce qui subsiste comme notable étant là considéré comme subsistant comme tel. Or, il est clair que ce qui est notable n'est pas comme tel individuel, que déjà dans cette façon de poser l'existence logique, il y a quelque chose qui dès le départ paraît fâcheux. Comment se fait-il qu'il soit posé sans critique? Le thème posé de l'univers. Si je crois pouvoir cette année supporter du nœud borroméen quelque chose qui, certes, n'est pas une définition du sujet. Du sujet comme tel d'un univers. C'est en cela vais-je une fois de plus remarquer que ma tentative n'a rien de métaphysique. Je veux dire, à ce propos que la métaphysique est ce qui se distingue de supposer comme tel le sujet connaissance. C'est en tant qu'elle suppose un sujet que la métaphysique se distingue. Se distingue de ce dont ici j'essaie d'articuler les éléments, à savoir ceux d'une pratique. Et ceci dans le fil de l'avoir défini comme se distinguant. Se distinguant de quelque chose qui est de pure place, de pure topologie, et qui fait de là s'engendrer la définition située seulement de la place de cette pratique, de ce qui s'annonce dès lors, s'avance comme étant trois autres discours. C'est là un fait discours, un fait par lequel j'essaie donner au discours analytique sa place d'existence. Qu'est-ce qui, à proprement parler, existe ? N'existe, comme l'orthographe dont je modifie ce terme le marque, n'existe dans toute pratique que ce qui fait fondement du dire. Je veux dire ce que le dire apporte comme instance dans cette pratique. C'est à ce titre que j'essaie de situer sous ces trois termes le symbolique, l'imaginaire et le réel, la triple catégorie qui fait le, et par là donne son sens à cette pratique. Car cette pratique, non seulement a un sens, mais fait surgir un type de sens qui éclaire les autres sens au point de les remettre en cause. Je veux dire de les suspendre. À quoi, comme articulation, articulation dont au terme d'un progrès fait pour susciter chez ceux qui soutiennent cette pratique l'idée de ce qu'est pour eux le réel, je dis le réel, c'est l'écriture. L'écriture de rien d'autre que ce nœud, tel qu'il s'écrit pour le dire, tel qu'il s'écrit quand il est selon la loi de l'écriture, mise à plat. Et je soumets ce que j'énonce à cette épreuve de mettre en suspens la distinction justement subjective de l'imaginaire, du symbolique et du réel, en tant qu'il pourrait en quelque sorte déjà porter avec eux un sens qui les hiérarchiserait, en ferait un 1, 2, 3, bien sûr, ceci n'évitera pas que nous ne retombions sur un autre sens, comme déjà il a pu vous apparaître du fait de ce que j'accentue, l'association du réel avec un 3, l'imaginaire avec un 2, et du réel, justement, et du symbolique, justement, avec l'un. Quelque chose dans les termes du symbolique, se pose comme un. Est-ce un un soutenable d'aucune individuation dans l'univers? C'est la question que je pose. Et dès maintenant, je l'avancerai sous cette forme, c'est à savoir de poser la question à propos de l'écriture de Boulle. Si le 1 que Boulle avance comme suffisant à répartir la vérité, si il y a X rêve que si que l'X soustrait du 1 soit autre chose que tout le reste, que tout le reste de nommable. Il y a là rien que de saisissant à constater que Boulle lui-même a écrit ce qui résulte de l'écriture de ces termes dans une formule mathématique soit amenée à y fonder que le propre de tout X en tant qu'énoncé, c'est que X moins X2 égale 0, ce qui s'écrit X égale X2. Je veux dire à se supporter d'une formule mathématique. Il est étrange que là, une note de son livre, du livre dont je vous ai donné tout à l'heure, la date majeur, en ce sens que c'est à partir de là qu'une un nouveau départ de la spéculation logique s'est pris, et qu'un nommé Charles Sanders Peirce, dont je vous ai déjà parlé, peut, par exemple, améliorer à son dire la formulation de Peirce en montrant qu'en certains points il puisse en résulter qu'elle se fourvoie, disons. Ceci à mettre en évidence ce qui résulte des fonctions à deux variables, à savoir non pas seulement x, mais x et y, et en y montrant ce où moi-même j'ai cru devoir prendre que la fonction dite du rapport peut la servir à nous montrer que pour ce qui est du sexuel, ce rapport ne peut pas s'écrire. Pourquoi se demande Boulle, plutôt que d'écrire X égale X2 et l'inverse, ne pourrait-on écrire X égale X3? Il est frappant que Boulle et ceci à partir de la notion de la vérité comme séparant radicalement ce qu'il en est de l'un et du zéro, car c'est du zéro qu'il connote l'erreur. Il est frappant que cet univers, dès lors solidaire comme tel, de de la fonction et de la vérité lui paraissent limiter l'écriture, de ce qu'il en est, de la fonction logique à la puissance 2 de X, quand la puissance 3, il cela refuse. Il cela refuse pour ceci, que mathématiquement, elle ne serait supposable, dans l'écriture que d'y ajouter un nouveau terme du produit. Ce qu'il ne se refuse certes pas quand il s'agit de faire fonctionner l'opération multiplication. Il écrit allocation x, y, z. Et il peut, selon les cas, marquer qu'x, y, z tel que les variables ont été situées d'une certaine fonction, que x, y, z, par exemple, égale aussi 0. Mais puisqu'il se limite à des valeurs 0 et 1, elle peut aussi bien prendre la fonction prenant sa valeur d'une certaine, d'un certain chiffrage 0 et 1 pour chacun des trois, il peut faire x, y et z chacun égal à 1, mais s'apercevoir que ça n'est pas 0 qui en est le fruit. Ainsi, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'ajouter à son 1 moins x un 1 plus x et de l'ajouter non pas comme addition, de l'ajouter comme terme de la multiplication? Il voit alors très bien que 1 moins x multiplié par 1 plus x donnant 1 moins x2, il aboutira, je n'ai pas besoin de vous le souligner à ceci, c'est que x moins x3 sera égal à 0 et que de ce fait, x s'égalera à x3. Pourquoi s'arrête-t-il? S'arrête-t-il dans quoi? Dans l'interprétation de ce que pourrait être cet X en tant justement qu'ajouté à l'univers. Est-ce que ce n'est pas le propre de ce qui, à l'univers, existe, que de s'y ajouter? C'est proprement ce que nous faisons tous les jours, et justement ce que je désigne d'un plus à le supporter de l'objet petit a. Mais alors, ceci nous suggère ceci, c'est à savoir de nous demander si le 1 dont il s'agit, c'est bel et bien l'univers à considérer en tant qu'ensemble ou collection de tout ce qui jamais suggéré, disons, à propos de cette écriture du Boucle, de fonder ce qu'il institue de l'univers, car c'est comme tel qu'il l'articule, qu'il lui donne son sens. De supposer que ce un, loin de surgir de l'univers, surgit de la jouissance. De la jouissance, et pas n'importe laquelle, de la jouissance dite phallique. Et ceci pour autant que l'expérience analytique nous en démontre l'importance que de cette suite, ce qui se pose comme logique, comme signifiant, mais littéral, je veux dire inscriptible, en tant que l'inscription, c'est là que surgit dans notre expérience la fonction du réel, du moins si vous suivez, que quelque chose comme un X à cette jouissance puisse s'ajouter et constituer ce que déjà j'ai défini comme fondant le plus de jouir. Il reste que Boule est loin de ne pas indiquer que ce n'est pas seulement le rapport de la jouissance au plus de jouir. En tant que le plus de jouir, ce serait justement ce qui existe. Existe à quoi? Justement, au nœud dont j'essaie pour l'instant, vous éclairez l'usage et la fonction. Il voit très bien que pour aboutir à la fonction x égale x3, et non plus seulement x2, il voit très bien que le tiers terme, le terme 1 plus x peut s'écrire autrement et nommément moins 1 moins x. Je veux dire moins 1 moins x pris dans une parenthèse, ce qui équivaut mathématiquement, je veux dire, en tant que l'écriture et ce qui est mathématique, ce qui peut s'inscrire aussi d'un moins avant la parenthèse et de 1 plus x mis à l'intérieur.
J'écris cet équivalent à l'addition ici de moins 1 moins x tel que vous les ajoutez pour les repousser, repousser en tant que la logique serait destinée à assurer le statut de la vérité. Mais pour l'instant, ce à quoi nous visons, n'est pas de donner son statut à la vérité, puisque la vérité, nous le disons, s'énonce jamais que du midi, qu'il est proprement impensable, sinon au lieu du dit, de marquer qu'une proposition n'est pas vraie et de la marquer d'une barre supérieure qui l'exclut, est la marque du signe du faux. Dans l'ordre des choses, en tant que le symbole est fait pour y exister, dans cet ordre des choses, il est proprement quoi qu'en dise Poole, étudiant, prétendant faire le statut de la pensée, il est impensable, justement. Il est impensable de cliver quoi que ce soit de dénommable, de le cliver d'un pur nom pour désigner ce qui n'est pas nommé. Est-ce à dire que nous devions mettre à l'épreuve ce qui résulte du X3 égale X? Assurément, c'est déjà quelque chose d'y voir fonctionner ce droit dont je marque comme tel le réel. Et c'est ici que nous allons prendre notre nœud borroméen. Le nœud borroméen si tant est que son énoncé existe à la pratique analytique. C'est lui qui permet de la supporter. Je voudrais à vous en montrer une fois de plus l'exemple dans cet espace qui est le nôtre, sans que nous sachions à l'heure qu'il est, et ceci malgré les citations d'Aristote, quel est le nombre des dimensions de cet espace, j'entends celui-là même, où des choses nous nommons. Regardez, ceci est la même chose que ce que j'ai d'abord dessiné au tableau. C'est à savoir que vous avez ici un rond de ficelle, comme on l'a appelé justement la première fois que j'ai introduit cette fonction. Ce rond de ficelle, ces trois ronds de ficelle, les voici. Vous voyez qu'ils tiennent ensemble. Ils tiennent pour autant que, il y en a ici, un que j'ai mis horizontal, les deux autres étant verticaux, et les verticaux se croisant. Il est évident que ceci n'est pas louable, n'est pas dénouable. Le nœud borroméen a fait, comme tel, travailler beaucoup de personnes ici, qui m'en ont même envoyé des témoignages. Celui-ci est sa forme la plus simple. Il est frappant que dans les travaux, ce sont de véritables travaux qui m'ont été envoyés sur ce point, travaux qui font leur part à toutes sortes d'autres façons, il y en a d'innombrables, de nouer ces trois de façon telle qu'ils permettent, avec le dénouement d'un seul de ces trois ronds, de libérer exactement tous les autres, et je vous l'ai dit, quel qu'en soit le nombre. Mais pour nous limiter aux trois, puisque ce trois colle avec nos trois fonctions de l'imaginaire, du symbolique et du réel, ceci très précisément, de ne pas les distinguer, de voir jusqu'où le fait qu'ils soient trois, et de ce fait, d'en faire la logique même du réel, à savoir de voir à quel moment nous allons pouvoir voir surgir simplement ces trois strictement équivalents, comme vous pouvez immédiatement le percevoir, de ces trois de faire surgir l'amorce de ce qui y serait différenciation. La différenciation s'amorce de ceci, dont je suis étonné que dans ces travaux que j'ai reçus, personne ne me l'ait fait remarquer. Voici. Par ces trois, tels qu'ils sont ici disposés, sont déterminés disons 8 cadrans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en prends un. Un quelconque. Et cadran, je tire la mise à plat, celle qu'ici vous allez voir. Vous allez voir là où vous êtes, mais à être où je suis, c'est certainement exactement pareil, c'est à savoir que vous voyez que quelque chose s'y trouve déjà du fait de la mise à plat s'y trouve déjà orienté. Je veux dire que vous voyez certainement la même inscription du nœud qui est celle que je vois, c'est à savoir dans l'occasion, pour ce que je vous ai montré, à avoir pris mon nœud de la façon exigée, c'est que par la mise à plat, quelque chose se dessine qui s'inscrit en suivant une forme qui s'inscrit de la dextrogyrie. Une fois mis à plat tel qu'il est, et retourné, je sais d'avance que c'est la même dextrogyrie. Suffit de faire ce petit travail, enfin, imaginez le retournement, et ceci aussi peut s'écrire. On verra que ça n'est pas l'image en miroir. Car retourner le nœud borroméen, vous ne voyez pas quelque chose qui en est l'image en miroir. Est-ce que ceci ne rend pas d'autant plus frappant ce fait? C'est qu'à reprendre mes cadrans. Mettons que tout à l'heure, j'ai choisi, je ne sais pas si c'est effectivement ce que j'ai fait, celui-là, pour vous, en haut, à droite. Si je prends celui de, non seulement j'ai dit en haut et à droite, mais je dis aussi en avant. Si je prends celui non plus en haut, à droite et en avant, mais en bas, à gauche et en arrière, celui qui lui est strictement opposé, et si c'est là que je pars, pour le mettre à plat, de la même façon que j'ai fait précédemment, il est tout à fait notable, et vous pourrez le vérifier, que ce qui résultera de cette mise à plat sera façon dont le nœud se coince, dont le nœud se serre, exactement inverse, c'est à savoir l'évogie. Il sort donc du seul maniement, déjà, du nœud borroméen. Il surgit une distinction qui est de l'ordre, de l'orientation. Si l'un est dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre sera dans le sens inverse. Il ne faut certes pas nous étonner que quelque chose de cet ordre puisse se produire, que puisque c'est dans la nature des choses que l'espace soit orienté, c'est même de là que procède la fonction dite de l'image en miroir et de toute symétrie de façon générale. Je m'excuse de l'âpreté de ce que mon discours d'aujourd'hui implique. Simplement, je vous note que ce fait de l'orientation pour les cadrans opposés est quelque chose qui nous indique déjà qu'il est conforme à la structure, le seul fait que l'orientation surgisse du seul support nodal, dont ici je prends arme. Il est concevable de ces ronds eux-mêmes y marquer un sens, c'est-à-dire une orientation. En d'autres termes, pour prendre le dernier, celui que je vous posais, question de ce qui résulte, de faire l'usage d'une orientation conforme à celle que nous avons obtenue de deux espèces et de deux seulement qui sont différentes, c'est à savoir que nous rendons compte qu'il en résultera une figure telle que sa périphérie marquera de ce fait la même orientation. Que faut-il pour que une de ces figures se transforme dans l'autre, à savoir celle-ci, également complète. J'avais vu à mon hésitation la marque même de la difficulté qui se rencontre dans le maniement des 10 rondes ficelles. Celle-ci est l'image de l'autre en miroir. Mais qu'est-ce qui suffit à transformer l'une dans l'autre? Quelque chose qui est définissable de la très simple façon suivante. C'est à savoir que, tel que vous voyez le Néron s'étaler, vous voyez que l'un quelconque d'entre eux manifeste que coupé chacun des deux autres d'une façon telle que l'un étant libéré, l'un étant sectionné, les deux autres soient libres. Ce qui veut dire que un de ces ronds peut tourner autour d'un des deux autres et que ceci à soi tout seul nous donnera un nouveau nœud boronéen. La loi de ce qui se passe dans l'occasion est celle-ci. Vous n'avez ici qu'à, je m'excuse de ne pas avoir de très couleur, ça serait mieux, de la crayonne. Qu'est-ce qui se passe si nous rabattons un de ces nœuds, un de ces ronds, autour d'un autre? C'est très exactement ceci que nous obtenons. Nous obtenons de ce fait une nouvelle figure qui se passait l'ancienne, vous la voyez mieux. Nous obtenons une nouvelle figure qui a pour propriété d'être de l'espèce de celle-ci. C'est à savoir que vous le voyez.
nous avons ceci qui est resté invariable, et deux choses.
Totalement différente du serrage du nœud, à savoir que
du seul fait que nous ayons renversé un des ronds, les deux autres éléments,
ceux que nous n'avons pas inversés, les deux autres éléments changent de direction. Je veux dire que, comme il est concevable,
le segment que sectionne, dans ce cas fouillage, le segment que se peut sectionner par retournement de ce rond qui était d'abord là, le segment a changé de sens. C'est à savoir qu'à l'un, à celui-ci, cet autre segment et celui-ci viennent se raccorder d'une façon que nous appellerons, si vous le voulez bien, centripète. Alors qu'auparavant, les trois effets centrifuges.
C'est bien en quoi, quand nous retournerons un rond de ficelle de plus, ce rond de ficelle restera dans son orientation primitive pour le segment lui-même
que nous allons avoir à savoir que si maintenant, après avoir retourné A, nous retournons B, et se trouvera garder le sens centripète. Mais alors, ce sont les deux os, à savoir un centrifuge et un centripète, qui s'inverseront, de sorte que le résultat en sera le centripète. Maintenant, centrifuge. Et le centrifuge devenant centripète, nous aurons de nouveau ici un centrifuge et deux centripètes. Mais celui qui sera centrifuge sera un des centripètes retournés. Est-ce que il faut que je refasse tout? Ou est-ce que quelqu'un a suivi? Je me suis exposé à ne même pas regarder de notes pour cette simple raison, c'est que c'est la difficulté même du maniement. Le peu imaginable, si on peut dire, de ce nœud borroméen dans lequel nous essayons de tirer parti, c'est cela même que je ne suis pas mécontent enfin, de mettre en valeur, n'est-ce pas? Voilà, après le deuxième atout, n'est-ce pas? Un des produits de la comme le précédent, qui s'y a produit, n'est-ce pas? Et c'est en temps que nous avons retourné le petit T après avoir retourné le petit A, que nous obtenons ceci, que nous avons un centrifuge à la place, un centripète à la place du centrifuge. Et un centrifuge à la place du centripète qui existe. Par conséquent, nous avons ici on va poser la question.
On m'a posé la question dans un endroit où on travaillait. On m'a posé la question de savoir quel rapport avait ce nœud borroméen avec ce que j'avais énoncé des quatre, je dirais, options dites d'identification sexuée. En d'autres termes, quel rapport pouvait avoir ceci avec Je vais maintenant essayer de vous. Supposons que nous donnions à ceci cette position. Selon la marque dans le corps d'un cartésien, les huit cadrans en question. Vous devez voir, vous apercevez que prenons ici le cadran en haut, à droite et en avant. Thank you. Parce qu'après tout, on aperçoit que ça ne va pas si aisément. Bon. L'important est ceci.
C'est de marquer que c'est à droite, celui-là, et le vertical vers la profondeur. À rabattre celui-ci, n'est-ce pas? C'est-à-dire celui qui était d'abord bien marqué à sa place ici. C'est à le rabattre ainsi que nous allons obtenir le rond, le nœud coronaire, tel qu'il se situe dans ce cadran. À gauche du cadran quelconque
où nous sommes partis. Dans ce cadran, donc, avec inversion de l'évogyrie, n'est-ce pas? C'est-à-dire passage à la dextrogyrie, puisque celui que j'ai fait en bas était un lévogyre. Et ainsi, parce que tel que les nœuds sont disposés, tel que les ronds de ficelle sont disposés, c'est ainsi que cela se noue, n'est-ce pas? Donc, nous avons là une inversion.
Je veux dire que pour prendre les choses à les placer en comme ici, par exemple, dans ce cadran-là, n'est-ce pas? Nous avons à passer dans celui-ci, nous avons une première inversion. À passer dans celui-ci, nous avons une seconde inversion. Dans quelques directions, à condition que ce soit une direction de symétrie par rapport à un des plans d'intersection, nous avons aux trois extrémités changement de ce plan. Nous avons une inversion. Bon. Si nous passons par ici, c'est-à-dire franchissons du haut en bas, nous avons une nouvelle inversion, c'est-à-dire un retour à ce qui était ici, une évolution. Ces opérations sont commutatives, à savoir qu'à passer ainsi, nous arrivons au même retour. En d'autres termes, c'est aux quatre points d'opposition, c'est-à-dire sur les 8-4 ans, à 4 cadrans définissables par ce que je veux dire l'inscription dans le cube intégral, c'est à cela que vous allez voir apparaître
4 figures homogènes toutes les trois dans l'occasion, l'élogie, puisque nous sommes partis d'un l'élogie. Bon. Qu'en résulte-t-il? Comment considérer cette multiplication, si je puis dire, par quatre, de ce qui résulte de simplement la mise à plat ou l'écriture du nouveau roman? Je propose simplement ceci. Une heure. Je n'aurai à commenter de la prochaine fois. Et ceci. Si, comme vous venez de le voir, c'est une figure tétraédrique qu'il s'agit. Une figure tétraédrique en tant qu'elle est produite par la bascule de deux des ronds de ficelle. Et on peut dire que, quel qu'il soit, nous revenons à la figure l'évogir, pour la spécifier, nous y revenons, quel que soit celui des deux, qui a été rabattu. Il en restera un qui n'a pas été rabattu. Celui qui reste est évidemment le troisième. Je veux dire, celui qui reste après que deux autres aient été rabattus. Que, par exemple, si nous faisons de ces rondes ficelles le symbolique, l'imaginaire et le réel, ce qui restera enfin et qui restera dans une position centrifuge, ceci, encore faut-il que vous le vérifiez. Je veux dire que vous vous aperceviez que c'est à basculer S et I qu'à la fin, le R reste centrifuge. Il y a pour cela une bonne raison, c'est que si vous avez bien vu la figure dernière, c'est le R, à savoir, disons le réel, qu'il faudra basculer pour obtenir la figure dernière qui elle-même sera dextrogyre et sera tout entière centrifuge. C'est une façon commode pour vous de retenir ce qu'il en est au deuxième temps de ce qui se passe après deux bascules, puisque vous devez, retrouver dans le cadran strictement opposé, celui dont je vous ai parlé quand je vous ai fait cette remarque de ce qui n'avait pas été trouvé, à savoir qu'en passant d'un cadran au cadran strictement opposé, au cadran contradictoire, au cadran diagonal, nous obtenons un nœud, non plus, si nous sommes partis de l'évogir, nous obtenons un nœud dextrogyre. Bien. Donc, vérifier tout ceci à l'occasion, enfin, en faisant des petites manipulations comme celles que j'ai si bien ratées devant vous, et vous verrez en somme ceci, qu'à se maintenir dans le nœud lévogique, nous obtenons ce que j'ai qualifié spécifié la lettre, puisque vous voyez comment les choses se passent ici. Vous pouvez faire reconstituer ici par exemple, vous savez, apprendre la, une des faces du carré, n'est-ce pas? Vous obtiendrez. Vous reconstituerez le cube. Vous reconstituerez le cube à partir de ceci, c'est que c'est toujours dans une disposition diagonale que se trouve diagonale par rapport à une des faces du cube, que se trouvent les cadrans qui sont de la même espèce. De la même espèce d'orientation, et nommément dans l'occasion de l'espèce lévogique. Je vais seulement vous suggérer ceci. C'est que ce qu'il en sort à partir de la fonction de la jouissance, il en sort ceci, c'est que quelque part, dans une de ces extrémités du tétraèdre, quelque part se situe le niapa d'Ips à dire non à Fidel. Quelque part, nous allons le mettre, il y a quelque chose non à trouver. Quelque part, il y a A de X, Fidel, à savoir que tous en font. En font fonction, et que quelque part vous avez pas toutes. Ce n'est pas pour rien que je vous ai mis cette forme, à savoir sous une forme de base. Nous aurons en quelque sorte à mettre en question ceci. Le pas. Non pas le pas exclusif, comme celui de tout à l'heure. Le pas de qui existe à dire...
Coupure milieu de bande.
Nous aurons d'autre part ce qui dit oui, mais qui est dédoublé, à savoir qu'il y a de tous pas, et d'autre part, le pas tous. Autrement dit, ce que j'ai qualifié du pas toutes. Est-ce que il ne vous apparaît pas que c'est là un programme, à savoir prendre Fantastier sujet à l'examen, de prendre la critique de ce qu'il en est du pas, de ce qu'implique le dire non, c'est à savoir l'interdit. Et très nommément, en fin de compte, ce qui se spécifiant de dire non à la fonction de X, dit non à la la fonction phallique. Le dire non à la fonction phallique, c'est ce que nous appelons dans le discours analytique la fonction de la castration. Il y a ce qui dit oui à la fonction phallique et le dit en tant que tout. C'est-à-dire, un homme est mort, un certain type, et tout à fait nécessité par la définition de ce que nous appelons l'homme. Vous savez que le panou a très essentiellement servi à marquer que il n'y a pas de la femme, c'est à savoir qu'il n'y en a pire que diverse, c'est en quelque sorte une par une, et que tout cela se trouve en quelque sorte dominé par la fonction privilégiée de ceci, qu'il n'y en a néanmoins pas une à représenter le dire qui interdit, à savoir l'absolument non.
Oh d'accord, il y a un examen maintenant.
Voilà. Alors, puisqu'il y a un examen maintenant, j'ai simplement amorcé la chose aujourd'hui, je vous demande pardon d'y avoir mis si longtemps, nous reprendrons la prochaine fois.